perkeleen tontot!
Salut à vous, créatures des ténèbres, bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. Et aujourd'hui, une émission bien chargée avec de la nouveauté, mais aussi une interview. L'interview d'un groupe originaire de Dijon en plus, donc la Bourgogne va être à l'honneur et ça c'est cool. Cette interview sera en compagnie du groupe Death Decline qui a sorti toute fin octobre un deuxième album qui s'intitule The Thousand Faces of Lies. Donc on en parlera tout à l'heure avec le chanteur du groupe Alexis qui va nous rejoindre. Donc bah, pour nous présenter un petit peu plus en détail le groupe Death Decline, c'est un projet Death Thrash, hein, j'en parlerai tout à l'heure. Mais surtout ce nouvel album très très prometteur qui a été enregistré à Clisson chez HK Cross, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment pour l'album de Flayed, qui a bossé aussi avec les Tambours, avec Sincenum, donc voilà, qui est la personne vers qui se tourner en ce moment en matière de production sur le sol français. Mais ça c'est pour tout à l'heure. En attendant, bah, je vous proposais une petite sélection de nouveautés avec seulement pour aujourd'hui 3. Il y aura également une nouveauté qui date de la semaine dernière. Je suis passé à côté et c'est impardonnable puisque c'est quand même le nouvel album d'Architect qu'on attendait avec pas mal d'impatience. Donc voilà, honte sur moi. Mais commençons par les sorties du jour de ce 16 novembre et on va se faire déjà une bonne petite tranche de nostalgie, enfin du moins pour ceux voilà qui avaient 15-20 ans dans les années 2000. Je sais pas si vous vous souvenez à cette époque où on découvrait Slipknot, où on écoutait Korn, Deftones, voilà, c'était eux qui tenaient un peu le haut de l'affiche. Il y avait un autre groupe aussi qui s'appelait POD. Un groupe californien qui vient de San Diego, qui a été formé en 92, et aujourd'hui ils sortent un nouvel album qui s'appelle Circles. Ça faisait un bail que j'avais pas entendu parler de POD, même si ils ont continué à sortir des albums depuis leur début, hein, mais voilà, bon, ça n'a pas toujours été très très bon. Là ils font un retour plutôt sympathique, donc j'avais envie qu'on s'intéresse à eux. Et puis aussi voilà, comme je vous disais, hein, pour ce petit côté nostalgique très agréable. Alors c'est un groupe qui est créé notamment autour du chanteur Sonny Sandoval, du guitariste Marcos Curiel, du batteur Wolf Bernardo. Le groupe sera ensuite rejoint en 94 par le bassiste Troy Daniels. Et c'est d'ailleurs avec ce line-up hein, qu'ils évoluent encore aujourd'hui. Il y a eu des petits changements entre-temps, mais voilà, ils sont revenus vraiment à cette formation-là. Alors pour ce qui est du style, on est dans le new metal dans toute sa splendeur, avec, bah, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, des influences rapcore, bien sûr, mais aussi des influences reggae. Et ça, c'était une de leurs particularités, ça se faisait un petit peu moins, même s'il y avait quelques formations quand même qui utilisaient ces petites influences reggae, mais voilà, ils étaient quand même assez précurseurs là-dessus. Alors, POD a quand même sorti 10 albums studio hein, depuis ses débuts, vendu plus de 10 millions de disques à travers le monde. Mais voilà, faut bien être honnête, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre dans sa discographie, loin de là. Ça va commencer avec 2 albums qui vont passer quand même relativement inaperçus. Et puis ensuite, ils vont commencer à faire un petit peu parler d'eux aux États-Unis à partir de l'album The Fundamental Elements of South Dawn, qui paraît en 99, qui va marquer les débuts du groupe chez Atlantic Records. Mais le hasard va faire que la destinée de P.O.D. elle va être totalement bouleversée le 11 septembre 2001. Alors le 11 septembre 2001, tout le monde se rappelle ce qui s'est passé. Et ben c'est le jour également où sort l'album Satellite, qui sera littéralement propulsé à la tête des charts du monde entier avec un titre qui s'appelle Alive, qui va devenir un des clips les plus diffusés de l'année sur MTV, grâce en partie au message positif qui est délivré par la chanson et qui fait du bien juste après cette énorme tragédie qu'a vécu les États-Unis, qu'a vécu le monde entier. Alors l'autre gros succès du groupe, ça va être le single Youth of the Nation. Et là, il s'inspire notamment de trois massacres perpétrés dans des lycées, dont le tristement célèbre Columbine. Et là, encore une fois, ce qui va faire la force de ce single, c'est cette espèce de côté, moi je crois en la jeunesse et on peut y arriver. Il y a ce côté positif vraiment qui fait du bien à l'époque aux gens. Les deux albums suivants, ça va être Payable on Death en 2003, Testify en 2006. Alors eux, ils vont connaître aussi des ventes assez importantes, pas autant que le précédent, mais quand même assez marquantes. Et puis la suite, ça va être beaucoup moins glorieux, d'autant que la vague nu metal, entre-temps, elle va être quand même pas mal retombée. Mais voilà, ce fameux mouvement nu metal, en ce moment, il faut bien avouer qu'il commence à reprendre un petit peu de vigueur, ça se fait de plus en plus présent, et qui sait, peut-être que P.O.D. va en profiter pour faire son grand retour grâce à Circles, qui paraît aujourd'hui, et si c'est le cas, ce sera justement en jouant sur cette corde de la nostalgie de ceux qui étaient en pleine adolescence, au début des années 2000, puisque P.O.D. applique ici à la lettre la recette qui a fait son succès d'antan. Alors faut comprendre par là un mélange de métal alternatif, de rapcore, de reggae, de rock. Il y a quand même quelques passages un petit peu faiblards sur Circle, mais nos Californiens, faut dire qu'ils savent encore dégainer des titres nerveux efficaces, comme par exemple Rocking with the Best, qui ouvre le disque et qu'on écoute tout de suite sur Back FM. Voici P.O.D. Let us begin. What, where, why, or when? I take offense to pussycats hanging in the lion's den. All trans, secondhand versions, a knockoff imitation, my echo in the wind. I remember when this music meant something, and these rappers weren't fronting, but now they all bluffing, not about nothing. No resumes and no dues. Nobody heard KRS, he was talking to you. In about 4 seconds, a new teacher was gonna speak. I think we need my philosophy part 2 and 3. So take it from me, all I need is a bass line, feedback from a guitar. I did them all with one rhyme. Who rocks the party? That rocks the party. Rock the party that rocks the party. You rock the party that rocks the party. And now rock for the best. Who rocks the party that rocks the party? I rock the party that rocks the party. You rock the party that rocks the party. And now rock for the best. As good as it gets, from past to present tense. MP3s on iPhones to tapes and cassette decks. From what's hot now to what's next. No special effects, I'm on another level. Too memorable to forget. Poetically phonetic, got you open for discussion. My left-minded logic controlling right brain function. Imagination and sight beyond the norm. Where music and art create three-dimensional forms. Not to mention 1/4 quarter century or more. We've been rocking on tour for your pleasure. So la-di-da-di, don't mean to be so cocky, but everybody and they mommy know who co-rocks the party. Who rocks the party that rocks the party? I rock the party that rocks the party. You rock the party that rocks the party.
The best.
C'était P.O.D. sur Bike FM dans l'émission Check Me Load avec le titre Rocking With The Best. Un morceau presque à Rage Against The Machine. Alors tout l'album n'est pas comme ça. On est parfois plus proche des Red Hot. Voilà, on est parfois sur des choses plus posées avec les influences reggae. À découvrir, pas le meilleur album du groupe, mais voilà, une jolie prouesse pour ce retour en 2018 avec l'album Circles. Eh bien, ce sera tout en matière de nu metal pour aujourd'hui, puisque le reste de la programmation va surtout voguer entre trash, heavy et un peu death quand même. Et là, on va s'intéresser à un groupe de trash metal pur et dur. C'est le groupe Artillery qui sort aujourd'hui un album intitulé The Face of Fear. Donc Artillery, c'est un groupe danois qui nous vient de la banlieue de Copenhague. Et c'est pas des lapins de 6 semaines, hein, puisque le groupe s'est formé en 1982. À ce jour, il reste un seul des membres fondateurs, en la personne du guitariste Michael Stutzer. Alors, je vous disais, on est sur du thrash metal. Artillery fait d'ailleurs partie des groupes qui vont contribuer au développement du genre. Et côté discographie, eh bien, après la parution de 3 albums, donc Fear of Tomorrow en 85, Terror Squad en 87 et By Inheritance en 90, qui seront suivis d'ailleurs de tournées intenses, le groupe va se séparer en 91. Et puis là, ça va être Je t'aime moi non plus, puisqu'ils vont décider de se former à nouveau 7 ans plus tard pour se séparer encore une fois en 2000. Et puis en 2007, eh bien, ils vont décider encore une fois de relancer la machine de guerre. Et depuis, Artillery a sorti 4 nouveaux albums. Il y a eu When Days Comes en 2009, My Blood en 2011, Penalty by Perception en 2016, et puis donc The Face of Fear qui a fait son apparition dans les bacs aujourd'hui. Un 9e album donc pour nos Danois qui restent fidèles à eux-mêmes avec 9 morceaux de trash old school, pur, brut, qui un son qui est pas sans rappeler celui de nos bonnes vieilles années 80, le tout sur fond d'apocalypse, hein, puisqu'Artillery a choisi d'évoquer dans ses nouvelles compos la disparition de l'humanité. Ils imaginent même pour ça les pires scénarios catastrophes, et c'est réussi, hein, puisque le groupe a beau avoir plus de 35 ans de carrière au compteur, il envoie encore sacrément du lourd. Alors si vous avez encore des doutes, voici de quoi vous convaincre. On écoute Artillery sur Bike FM avec le morceau The Face of Fear, qui est également le nom de l'album. We'll be right back. vous avais dit qu'ils avaient encore bien la rage, hein, les gars de Artillerie, groupe créé en 82 et qui peut encore botter le derrière des jeunes formations. Il y a encore de quoi faire. C'était un extrait de l'album The Face of Fear. Ça paraît aujourd'hui. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle également The Face of Fear. Et vous êtes toujours, bien sûr, sur Back FM dans l'émission Metal Check Me Load. Tout à l'heure, interview, je le rappelle, avec le groupe de Thrash Death Dijonais, Death Decline, pour son nouvel album. Donc restez bien à l'écoute pour découvrir ça. Franchement, ça va être une des grosses formations de la scène métal hexagonale des prochains mois. Donc préparez-vous bien à leur arrivée. Ça va faire mal. Moi, je vous le dis, il y a du gros potentiel là sur ce deuxième album. En attendant, je vais vous proposer un petit coup de live avec encore une sortie de ce 16 novembre. C'est le live de Amon Amarth qui paraît aujourd'hui et qui s'intitule The Pursuit of Vikings 25 Years in the Eye of the Storm. Tout un programme. Alors Amon Amarth, c'est un groupe suédois, hein, qui nous vient de d'une ville qui est du côté de Stockholm, qui s'appelle Tumba, pour ceux qui connaissent bien la Suède. Moi, je connais pas bien, donc voilà. Là, je vous répète bêtement ce que j'ai pu lire. C'est un groupe qui existe depuis un moment, depuis 92, qui a été fondé sur les cendres d'une formation grindcore qui s'appelait Scum, qui est culte, hein, en matière de grindcore. Et Amon Amarth, c'est mené par le chanteur Johan Egg. Pour les curieux, il faut savoir que le nom du groupe vient de l'univers de Tolkien. Voilà, c'est un mot en elfique, hein, il me semble. Je suis pas spécialiste de Tolkien, mais si je vous raconte pas d'ânerie, ça doit être ça. Alors, Amon Amarth, c'est du death mélodique, dont l'univers s'inspire principalement de la mythologie scandinave. Par conséquent, on le rattache souvent au style viking metal, même si, attention, le combo n'utilise pas d'instruments dits traditionnels, comme c'est souvent le cas en matière de viking metal. Là, pas du tout. Au contraire, on reste vraiment sur j'ai envie de dire le tiercé gagnant, mais non, puisque c'est, c'est ça, c'est basse, guitare, batterie, voilà. Dès son premier album qui s'appelait One Send from the Golden Hall en 98, Amon Amarth va acquérir une large renommée au sein de la scène death. Et par contre, avec son quatrième album Versus the World en 2002, il va connaître un premier virage musical. Il va s'orienter vers un son plus lourd, plus sombre, une évolution qui va se confirmer avec Fate of Norns en 2004. Et bah, il faut le dire, hein, le groupe va devenir au fil des albums une des valeurs sûres de cette scène suédoise mais aussi internationale. Mais ça n'empêche qu'ils vont décider de surprendre les fans avec la sortie en 2008 de Twilight of the Thunder God, qui propose d'ailleurs, outre ce changement de son, de très belles collaborations, puisqu'on retrouve LG Petrov de Entombed, on retrouve Rupe Latvala de Children of Bodom, et puis aussi les quatre violoncellistes du groupe Apocalyptica. C'est une grosse réussite, le disque connaît vraiment un gros engouement, va devenir le premier gros succès commercial de Amon Amarth, qui voilà va un petit peu se reposer sur ses lauriers et va sortir en 2011 l'album Surtur Rising, qui est un petit peu plus en demi-teinte, mais retour en force des Suédois en 2013 avec l'excellent Deceiver of the God, suivi en 2016 par le tout aussi excellent Jomsviking, qui est le premier concept album du combo et qui devient aussi son plus gros succès commercial à ce jour. Mais si on parle d'eux aujourd'hui, c'est pour ce fameux CD-DVD live qui en fait est sorti pour fêter les 25 ans de carrière du groupe. Alors on y trouve d'une part l'enregistrement de son concert au Summer Breeze Festival autour de sa tournée mondiale de 2017. Durant ce concert, le groupe reprend tous ses classiques et plus encore. Et puis on retrouve également un document exceptionnel qui est composé d'une heure d'interview, de documents inédits. De documents inédits sur l'histoire du groupe. Alors, avec The Pursuit of Vikings 25 Years in the Eye of the Storm, c'est toute la fureur des attaques vikings d'Amon Amarth qu'on peut retrouver concentrée. Les fans vont se régaler, et d'ailleurs, nous non plus, on va pas se priver, on va se faire un petit coup de ce fameux live avec le morceau Twilight of the Thunder God. Voici Amon Amarth. Chaque vendredi, le métal fait son show sur Back FM. Et là, vous avez eu un extrait du show de Hum on Mars avec Twilight of the Thunder God, extrait du CD DVD Live The Pursuit of Vikings 25 Years in the Eye of the Storm. Ça paraît aujourd'hui. Donc, fan de Hum on Mars, et ben voilà. Encore un bel objet à acquérir. Vous êtes toujours dans l'émission Check Me Load. Et avant de retrouver le groupe Death Decline pour une interview, pour une petite présentation de qui ils sont et surtout une présentation de leur nouvel album, une dernière nouveauté qui date de la semaine dernière, qui est passée entre les mailles du filet et j'ai assez honte, c'est Architect qui a fait son retour donc avec l'album Holy Hell. Après le drame du décès de son guitariste il y a 2 ans, eh bien Architect se relève magnifiquement avec ce 8e album. Architect, qui est un groupe de Brighton fondé en 2004, créé notamment sous l'impulsion des jumeaux Dan et Tom Searles, qui sont respectivement batteur et guitariste. Donc c'est Tom qui a succombé à un cancer en 2016. Alors, outre Dan Searles, à ce jour, le groupe compte en ses rangs le chanteur Sam Carter, qui, pour la petite anecdote, avait l'an dernier fait la une des médias parce qu'il avait fait stopper un concert après avoir vu un spectateur ploter une fille qui slamait. C'était quasiment à l'époque Balance ton porc, donc ça avait fait beaucoup de bruit. Il avait été vraiment acclamé pour son geste, pour le fait que voilà, ce soit quelqu'un de respectueux et qui a dénoncé le malotru. Sinon, alors voilà, parenthèse refermée, on en revient au line-up. Sinon, donc, au poste de guitariste, on trouve Adam Christiansen et Josh Middleton, désormais. Et puis, enfin, à la basse, c'est Alex Dean. Donc, Architects, c'est du metalcore avec beaucoup d'influences qui sont à la fois post-hardcore, deathcore, madcore, progressive. L'aspect technique est effectivement très présent dans leur musique. Il y avait déjà eu 2 albums. Le premier, c'était Nightmares en 2006, qui est d'ailleurs le seul où apparaît le premier chanteur, Matt Johnson. Il y avait eu Ruin en 2007 et ensuite ils ont signé avec le label Century Media, sur lequel était sorti en 2009 Holocrone, qui sera accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les médias, par les fans, et ben à partir de là le succès du groupe va se faire grandissant. Comme en témoignent les albums Let Here and Now en 2011, Deep Breaker en 2012, et puis surtout Lost Forever, Lost Together en 2014. C'est avec cet album-là que nos Britanniques vont connaître la consécration, devenir un des fers de lance de cette scène metalcore. Et ça va vraiment tout ça se concrétiser avec l'excellent All Our God Have Abandoned Us. Je pense que je le prononce très mal d'ailleurs, qui est paru en 2016, qui va devenir lui le plus gros succès commercial de nos Britanniques. Et voilà, c'est là que le sort va décider de s'en mêler, d'assombrir ce beau destin qui s'annonçait pour le groupe avec la disparition, seulement 3 mois après la sortie du disque, du guitariste membre fondateur Tom Searles. Donc, évidemment, le reste du groupe va être anéanti par la perte de leur frère, de leur ami. Ils vont déclarer à l'époque ne pas être sûr de vouloir continuer sans lui. Et puis finalement, après cette douloureuse période de deuil où faut apprendre à vivre avec son chagrin, faut continuer à avancer malgré tout, eh bien Architect s'est remis au travail pour donner naissance à Holy Hell, qui est largement dédié à la mémoire de Tom, dont d'ailleurs le fantôme est très présent puisque son jumeau s'est chargé de transmettre quelques riffs qu'il avait composés avant que la maladie ne l'emporte. Quant au reste de l'album, eh bien les principaux compositeurs en sont le nouveau guitariste Josh Middleton, qui s'est énormément impliqué, et puis accompagné de Dan Searles, qui lui signe des paroles bouleversantes. Sam Carter, les interprète d'ailleurs avec une intensité absolument incroyable. Alors sans rien révolutionner, Architects nous livre un album fort et poignant. En voici un extrait avec le déchirant Hereafter. C'est tout de suite, c'est sur Back FM. We'll be right back. Sur Back FM dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. Vous venez d'écouter le titre Here After, extrait du nouvel album Holy Hell qui est paru il y a une semaine, le 9 novembre. Voilà pour ce fer de lance du mouvement metalcore né en Grande-Bretagne mais qui est maintenant un phénomène absolument mondial. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver Alexis de Death Decline. Alors, on va le retrouver dans quelques minutes, juste le temps de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Je veux juste vous dire trois mots sur le groupe, hein. Death Decline, c'est un groupe qui existe depuis 2008, qui s'est fondé à Dijon. C'est un projet trash death, mais c'est un petit peu plus, on va dire, c'est un petit peu plus large que ça en matière d'influence. On va demander ça à Alexis qui nous précise un petit peu tout ça. C'est un groupe qui a sillonné les routes pas mal déjà, qui a partagé l'affiche avec des grands noms du métal, aussi bien de la scène trash comme Angelus Apatrida, que de la scène métal tout court comme Mass Hysteria, ADX, Napalm Death, grand groupe aussi de la scène trash death. Il y a eu Dagobah, enfin voilà, il y en a eu une liste assez impressionnante. Ils avaient fait un premier album en 2015, c'était Built for Sin, et puis là voilà, sortie de The Thousand Faces of Lies, enregistrée en novembre 2017, donc au Vamakara Studio avec HK Cross. Album qui marque un tournant musical pour Death Decline, qui va se montrer sous un jour plus technique, agressif. Ça aussi, on va en parler avec Alexis dans quelques minutes. Bah, juste le temps donc de se mettre dans l'ambiance avec le titre Useless Sacrifice, et puis voilà, on le retrouve tout de suite après.
Yeah.
C'était Death Decline dans l'émission Check Me Load avec le titre Useless Sacrifice, qui est extrait du deuxième album du groupe, un album qui s'intitule The Thousand Faces of Lies, qui est paru le 25 octobre. Et pour en parler, eh bien, j'ai avec moi Alexis, qui est le chanteur du groupe. Salut Alexis, bienvenue sur Bike FM.
Salut, merci à toi de nous recevoir.
Eh bien écoute, c'est un plaisir, d'autant plus de recevoir un groupe bourguignon, puisque nous on se trouve à Nevers.
D'accord, donc effectivement, donc, voilà. Ben, on va essayer de redorer le blason bourguignon en avant.
C'est ça. Ce que je te propose pour commencer, c'est de faire une petite présentation de Death Decline. Parce que je crois que depuis la création du groupe à Dijon en 2008, il y a eu pas mal d'évolutions, notamment en termes de line-up. Hein.
Tout à fait. Alors, est-ce que je te refais l'historique depuis 2008 ou est-ce que je te donne juste l'état actuel des choses ?
Eh ben, comme tu le sens.
Écoute, en deux mots, Death Decline, c'est un projet trash qui avait été fondé en 2008 par Manu, guitariste de l'époque, qui avait recruté les premiers membres autour de lui, donc entre autres Mariana au chant, Val à la batterie et puis Alex à la basse.
D'accord.
Et en 2011, il a été rejoint par Fab, qui est toujours notre guitariste à l'heure actuelle à la guitare lead. S'en est suivi un gros changement de line-up puisque César et un autre Alex ont pris les places de batteur et de bassiste. Avec cette formation, ils ont commencé à tourner un petit peu. Ils ont enregistré un premier EP, Blood and Redemption, en début 2013.
Ok.
Moi, je suis arrivé, je leur ai filé un petit coup de main sur une date fin 2013 où Mariana était absente, donc l'ancienne chanteuse, et ensuite en fin d'année quand elle a annoncé qu'elle souhaitait sortir du groupe, moi je me suis naturellement proposé pour essayer parce que j'avais eu un bon feeling avec les gars. Donc début 2014 j'étais officiellement dans le groupe et on a pu continuer de tourner un petit peu. Manu a décidé de sortir du groupe lui aussi en juin 2014. Et après un petit passage avec un ami Gaspard à la guitare qui est pas resté très longtemps, on a récupéré Mario comme second guitariste,
okay.
Qui venait de Slovenly World, un groupe avec qui on avait beaucoup tourné et avec qui moi j'avais joué à l'époque dans Noisebleed.
D'accord.
Et puis avec cette formation, on a pu commencer à attaquer des choses un petit peu plus sérieuses, donc finaliser la composition d'un album, enregistrer notre premier album début 2015, qui est sorti le 1er juillet 2015, réaliser la tournée de cet album en question. Donc on a réussi à se faire une jolie petite trentaine de dates un petit peu partout en France. On a pu aller en Suisse, en Espagne, et puis bref, c'était un joli moment.
Ouais.
En novembre 2017, on a décidé d'aller enregistrer notre deuxième album au Vamakera Studio. Et à l'issue de cet album, au mois de mars dernier, César nous a annoncé qu'il souhaitait se retirer lui aussi du groupe, qu'il souhaitait arrêter la musique live. Donc on a dû retrouver un batteur qui a été donc Arnaud, qui est officiellement dans le groupe depuis cet été et qui a fait son premier concert avec nous il y a quelques semaines au Mondo Bizarro à Rennes. Et donc voilà, aujourd'hui nous sommes en train de vous présenter notre nouvel album The Thousand Faces of Lies, que nous sommes contents d'avoir enfin réussi à sortir après cette gestation très très longue.
Ouais, il s'en est passé des choses hein, ces dernières années. Hein.
Oui, ça a été mouvementé. Là, je pense que pour le moment, on tient à peu près le bon bout, mais bon, on n'est jamais à l'abri des péripéties.
Alors, tu l'as déjà un peu évoqué, mais la musique de Death Decline, c'est un mélange de thrash, de death, avec d'autres influences hein, qui viennent à la fois du heavy, du groove metal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les influences musicales de chacun ?
Bien sûr. Alors, on balaye vraiment, si on mélange tous les membres du groupe, on a à peu près tout l'éventail de sous-genres de métal,
ouais.
En passant de l'obscur black au prod plus djent et moderne, on a vraiment un petit peu de tout. Ça, on essaye. Alors, on a essayé un petit peu sur Built, mais c'était encore assez mal maîtrisé. Maintenant, on essaye de le digérer un petit peu mieux pour produire une musique qui soit pas forcément fermée dans certains codes, mais qui reste quand même assez homogène. Donc, on s'interdit pas, comme on peut le voir sur l'album, une petite touche heavy de temps en temps ou quelques passages un petit peu plus corps. Mais en gros, on va dire qu'on se définit par un thrash death. On veut vraiment garder le côté très très lourd du death et puis le côté beaucoup plus agressif que tu vas retrouver dans le thrash metal. Et envoyer une musique qui est vraiment, on se focalise sur le live. Il nous faut une musique qui soit efficace pour qu'on puisse la restituer telle quelle en live, sans fioritures, sans concession.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un groupe qui met tout le monde d'accord au sein de Death Decline?
Alors il y a des groupes où on est tous d'accord pour dire qu'ils sont bons, mais et qu'on apprécie. Mais le truc c'est que dans un groupe où on est vraiment tous fans, il y en a qui vont mettre d'accord peut-être un ou deux membres,
ouais.
mais les cinq membres, non, on est tous en train de se foutre sur la tronche pour savoir lequel est le meilleur.
D'accord. Alors en 2015, tu en as parlé déjà, vous aviez sorti un premier album, Built for Sin, qui posait les bases de Death Decline, hein, c'était un peu ça. Là, avec The Thousand Faces of Lies, l'identité du groupe, elle s'affirme, elle évolue vers un son, tu l'as dit, beaucoup plus agressif, beaucoup plus technique. Moi, je l'ai trouvé aussi beaucoup plus moderne et varié. Donc ça, c'est une direction que vous aviez choisie, réfléchie, ou c'est quelque chose qui s'est imposé en composant?
Alors en fait, ça a été un mélange d'un petit peu tout quand on est sorti de l'enregistrement de Built for Sin, même si on était content du produit et que tout a été fait au mieux qu'on pouvait avec nos moyens de l'époque.
Ouais.
On s'est vite aperçu des nombreux défauts que nous, des gens, on était capables de voir et qui ont été ressoulignés derrière par les différentes critiques qu'on a pu recevoir, qui dans l'ensemble étaient positives, mais qui mettaient quand même en lumière les petits problèmes d'homogénéité ou de longueur sur les morceaux, et du coup on a gardé tout ça en tête quand on a composé le nouvel album. Après ça, c'est, on n'a pas forcément calculé la chose, c'est venu assez naturellement. On avait envie de quelque chose de plus direct et puis de plus frontal, donc les morceaux ont été faits en conséquence et les textes derrière tout pareil.
D'accord. Alors l'autre différence de taille entre le premier album et puis The Thousand Faces of Lies, moi j'ai trouvé que c'était la production, alors là, qui est absolument énorme. Donc l'album, tu l'as dit, il a été enregistré dans presque la capitale métal
de notre beau pays, oui.
Du métal de notre beau pays, ouais, à Clisson, au Vamakara Studio avec HK Cross, qui est depuis quelques temps, c'est un des producteurs les plus en vue de l'Hexagone, hein, en ce moment.
En ce moment, oui.
Ça s'est passé comment, cette collaboration? Est-ce qu'il vous a conseillé, dirigé?
Oui, il a assuré, alors d'une part parce que nous on en avait besoin, s'il y a encore un défaut qu'on a à travailler et à perfectionner, c'est qu'on avait encore pas d'idée précise de ce que devait être le son Decline,
ouais.
Et il nous a conseillé là-dessus. Alors on est tous des personnalités un petit peu fortes, donc des fois il y a eu des frictions, mais par contre l'accueil a été excellent, la prise en charge a été excellente, on a enregistré dans des bonnes conditions, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et pour le besoin qu'on avait, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. La production s'est fait main dans la main. On a eu à discuter plusieurs fois sur sa vision des morceaux, sur notre vision des morceaux, jusqu'à trouver un compromis qui satisfasse tout le monde. Et on est content d'avoir réussi à garder ce côté vraiment brut, part en guerre, et pourtant quand même suffisamment défini pour que ça reste tranchant et incisif, quoi.
Alors l'album, il démarre par une intro instrumentale qui nous plonge assez doucement finalement dans l'ambiance. C'est une intro qui est assez cinématique, et puis ensuite c'est une avalanche de brutalité, d'atmosphère sombre, pesante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que racontent les chansons?
Alors les chansons, ça va systématiquement évoquer des sujets qui moi me foutent un peu en run,
ouais.
Des choses qui me touchent, parce que pour être crédible sur scène, moi j'ai besoin de croire en ce que je chante, donc je vais systématiquement attacher un petit peu de soin à mes paroles pour aller dans ce sens-là. Après les sujets sont variés, généralement ça peut parler de choses assez personnelles comme le premier morceau de l'album, ça peut parler juste d'un coup de gueule du moment sur les réseaux sociaux comme sur Networks Zombie Society.
D'accord.
Ça peut parler des nombreuses façons qu'on peut avoir de faire un petit peu de la merde comme sur beaucoup des morceaux, ou des gens qui essayent de te manipuler comme sur Seven Faces. Ça reste toujours axé autour de choses qui vont moi me mettre en run.
D'accord, et que tu vas ensuite vivre sur scène, quoi.
Tout à fait.
Alors justement, le ton de l'album, il est très bien donné par l'artwork qui est très bien réussi. Et là encore, vous avez choisi quelqu'un de très en vue, hein, dans la scène métal, puisque il s'agit de Stan W. Decker. C'est un graphiste qui est basé à Clermont-Ferrand, mais qui bénéficie désormais d'une renommée mondiale. Alors là, comment ça s'est déroulé, la conception de cet artwork? Est-ce que Stan, il a écouté les morceaux pour s'en inspirer? Est-ce que vous lui aviez préparé un cahier des charges?
Alors en fait, Stan, on avait déjà bossé avec lui pour la conception du premier album.
D'accord.
Et on avait été très très contents du travail qu'il nous avait proposé. Alors là, maintenant, je suis en train d'y repenser. J'arrive plus à me souvenir exactement comment on était tombé sur lui. Mais toujours est-il qu'on avait été vraiment emballé par la pochette. Donc tout naturellement, on est retourné vers lui pour le deuxième album. Il y a eu une petite bataille parce que moi et Fab, étant des gros fans de Heavy, on aimait bien le côté gimmick de garder le même personnage que sur le premier album
pour ouais.
Essayer de calquer un peu sur un Eddie, un Rattlehead ou même dernièrement il y a Savage Meshuggah qui a fait ça aussi. Lui, il avait un petit peu peur que ça fonctionne pas pour un groupe qui soit pas Heavy, mais vu qu'on a bien insisté comme des gros relous qu'on pouvait être, il a fini par s'y plier, par nous faire cette pochette qui est juste sublime. Et en fait, sans dire qu'elle va apparaître texto sur tous les albums, maintenant, si tu veux, le premier jet build, je pense que ça aurait été trop anecdotique si on avait laissé ce personnage
ouais.
juste sur une pochette, puis derrière, juste en petit rappel sur les autres albums. Là, maintenant, elle est vraiment assise, elle fait partie de l'image de Decline. Donc maintenant, on pourra se permettre sur les prochains albums de la faire réapparaître de façon plus discrète. On sait qu'elle est là et qu'elle incarne un petit peu une partie de l'identité du groupe.
Et est-ce qu'elle a un petit nom ou pas encore?
Alors pour l'instant, c'est la pute Decline, c'est pas super glamour.
D'accord.
On n'a rien trouvé de mieux.
Ça viendra.
Ça, peut-être.
Mais justement, puisqu'on parle image, au mois de septembre, vous avez sorti votre premier clip aussi. Il s'agit du titre Useless Sacrifice qu'on a écouté juste avant l'interview. Et la vidéo, alors elle a été réalisée par Crazy Shot, c'est ça?
Tout à fait.
Alors comment ça s'est passé, ce premier tournage?
Il faisait chaud, c'était chiant. Non, c'était super bien. Donc on s'est dirigé vers Crazy Shot pour tout un tas de raisons, notamment le fait qu'on avait bien aimé le travail qu'ils avaient fait pour Tank.
Ouais.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a convenu d'un lieu qui se trouve pas très loin de chez Fab. On avait déjà fait un shooting photo une fois. Et à la suite de ça, ils nous ont rejoint sur place. On a tout mis en place et puis on s'est un petit peu laissé driver. On avait juste donné quelques indications. On voulait pas de clips scénarisés, en fait on voulait vraiment axer clip sur quelque chose de plus visuel avec des plans sympas et puis des trucs comme ça, et puis il s'est très très bien plié à tout ce qu'on lui avait demandé. Et au moment de recevoir le clip, on était tous un petit peu fébrile et circonspect, toutes nos craintes se sont envolées parce que on est vraiment très très content du travail qu'il a fait pour nous, quoi.
Et vous êtes également apparu à la télé il y a pas longtemps sur Canal,
ouais.
Dans l'émission, ouais. 21 cm. Comment vous êtes retrouvé là?
Et en fait, il se trouve que donc pour suivre le délire, l'invité était Monsieur Riyad Sattouf,
ouais.
Donc l'auteur
de BD,
entre autres Pascal Brutal et compagnie, qui se trouve être un passionné de prime enfance de heavy metal et d'aviation. Et du coup, il voulait lui offrir, entre autres, un vol avec la patrouille de France à la BA-102 de Dijon. Et pour rejoindre l'utile à l'agréable, ils ont appelé l'association Les Ptiobis. Et le président de cette association, notre ami Palou, leur a conseillé notre groupe si on était disponible, s'ils cherchaient un groupe de métal sur Dijon. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé un mardi après-midi à 14h à patienter sur un tarmac en attendant de faire du bruit pour un pauvre homme qui venait de se prendre 3G dans la gueule et qui était à peine vivant.
Bon, en tout cas, on peut revoir d'ailleurs en replay pour ceux qui ont envie d'aller voir votre prestation. Moi, je leur conseille d'aller voir sur le site de Canal.
L'émission dans son intégralité, parce qu'elle est très très bien filmée, et moi je connaissais, ça m'a donné l'occasion de découvrir cette émission et je trouve qu'elle est vraiment super bien foutue.
Alors l'album The Thousand Faces of Life, donc il est paru le 25 octobre, vous avez déjà commencé je crois un petit peu à le défendre sur scène, vous avez d'autres dates de Calais là?
Oui, tout à fait. Alors là, pour l'instant, on a une petite dizaine de dates de confirmées et
okay.
Plus, on va dire une petite dizaine en attente de confirmation. On va essayer de se booker une petite tournée à l'étranger, voire plus si on a des plans intéressants. Et puis, encore une fois, notre but, nous, c'est de défendre l'album en live. Donc, on va s'accorder 2 ans pour bien profiter de cet album. Et puis, je pense que sur 2019 et début 2020, on va se concentrer vraiment là-dessus. Et puis tout en parallèle, commencer gentiment à préparer le troisième. Là, on a déjà quelques ébauches, que ça soit musical ou de texte. Donc,
okay.
on fait ça en travail de fond derrière.
Et c'est peut-être un petit peu trop tôt, mais est-ce qu'il y a des plans pour éventuellement des festivals cet été ou pas encore?
Alors, on a reçu une petite réponse hier, mais vu que c'est encore du tout frais, je vais pas pouvoir
juste
le truc. Mais par contre, j'en profite pour faire passer le message à toi, organisateur de festival, si tu veux, nous sommes disponibles. Nous, notre seul but, c'est de s'exporter, donc que ça soit à l'autre bout de l'Europe ou chez nous, on va venir jouer. Donc voilà, on est en train de travailler justement au booking sur les différents festivals.
Eh ben, le message est lancé. Merci Alexis de nous avoir présenté Death Decline et puis de nous avoir présenté votre nouvel album. Je rappelle qu'il s'appelle The Thousand Faces of Lies. Il est disponible depuis le 25 octobre en version physique bien évidemment, mais également en version numérique sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Et on va d'ailleurs se quitter avec un nouvel extrait de ce nouvel album. J'ai choisi le titre Bury the Beast, est-ce que ça te va ?
C'est très très bien.
Eh ben c'est super. Merci Alexis, je te dis à bientôt.
Merci beaucoup à toi et longue vie à Radio Black FM.
Eh ben longue vie également à Death Decline. Salut.
Au revoir, merci.
C'était Death Decline à l'instant avec le titre Bury the Beast, un extrait donc du nouvel album, album qui s'intitule, je le rappelle une dernière fois, The Thousand Faces of Flies, qui est disponible donc depuis fin octobre, que vous pouvez écouter en stream, que vous pouvez télécharger ou bien acheter en version physique. Merci à Alexis de nous avoir accordé un peu de temps pour présenter le groupe, pour présenter l'album, et je pense qu'en tout cas ça va faire mal dans les mois à venir, on va en entendre parler de Death Decline, ça c'est une chose qui est sûre. Vous êtes toujours dans l'émission Check Me Out sur Back FM, et puis bah, ça y est, hein, c'est l'heure de la refermer cette émission. On va la refermer au son d'une reprise avec la rubrique Sortez Cover. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un album qui est paru assez récemment, le 19 octobre. Il est signé des Allemands de Bonfire qui s'offrent une petite récré en reprenant pas moins de 32 classiques du rock, du hard rock et du heavy metal. Un album qui s'intitule tout simplement Legends et dans lequel eh bien, j'ai sélectionné un tube des années 80. Ça revient assez souvent, les années 80, dans cette rubrique, qui connaît depuis quelque temps un véritable regain de popularité. Il s'agit de la chanson Africa du célèbre groupe de rock américain Toto. Alors, reconnaissable dès les toutes premières notes de synthé jouées par David Paich, qui a composé la chanson, Africa est sorti en 1982 sur l'album Toto 4, qui est le plus gros succès commercial du groupe avec 12 millions d'exemplaires vendus à ce jour. Et c'est après avoir regardé à la télé un documentaire sur l'Afrique que David Paich, qui n'y avait alors jamais mis les pieds, a eu l'idée d'écrire Africa, juste en se basant sur les images qu'il avait pu voir et sur ce que des personnes ayant séjourné lui avaient raconté à propos de ce continent. À cette époque, outre voilà cette petite anecdote, il faut savoir que Paich venait juste d'acquérir un tout nouveau clavier et donc il était en train de s'amuser avec son nouveau joujou lorsqu'il a composé cette fameuse ritournelle que j'évoquais il y a quelques instants. Le single va être un gigantesque succès un petit peu partout dans le monde. Il est 4 fois disque de platine aux États-Unis, disque de platine au Royaume-Uni. En France, il va se hisser jusqu'à la 18e place du hit-parade. Et ce qui est assez marrant avec Africa, c'est que le morceau, comme je l'ai évoqué, il connaît depuis quelque temps un très très gros regain de popularité, et c'est grâce notamment à son utilisation dans plusieurs séries à succès, dont en tête de liste Stranger Things, une série qui est devenue culte dès sa sortie à l'été 2016, qui est, alors, Stranger Things, si vous êtes passé à côté, c'est une véritable déclaration d'amour à la culture pop des années 80, et justement l'intrigue de la saison 1, elle se déroule en 83, donc à l'époque, le morceau Africa était encore un très gros succès. Et cet engouement pour la chanson va être tel qu'une jeune femme, une jeune fan du groupe de rock Weezer, eh bien, va leur demander sur Twitter à eux aussi de reprendre Africa, et cette version de Weezer, elle va devenir un des morceaux les plus populaires de cet été 2018, vous l'entendez d'ailleurs régulièrement sur les ondes de Back FM. Mais c'est celle de Bonfire qui nous intéresse maintenant. Bonfire, groupe de heavy metal allemand, fondé en 72, mais qui a surtout cartonné dans les années 80, on y revient encore une fois, avec 3 albums de folie qui sont parus entre 86 et 89. Le plus célèbre, c'est probablement l'excellent Fireworks, qui date de 87, qui leur a permis à l'époque de rivaliser avec Scorpion quand même, hein. Après, bah, voilà, il y a les années 90, là c'est plus compliqué, et Bonfire va faire son grand retour, un peu comme tous les groupes de l'époque dans les années 2000, et affiche depuis quelques années une forme olympique, comme en témoignent ses derniers albums. Allez, par exemple, écouter Glorious, qui est sorti en 2015, qui est vraiment très très bon. Quant à l'album de reprise Legends, c'est donc, comme je l'ai dit, 32 titres, donc plus de 2h30 de son, pour un exercice qui est extrêmement casse-gueule, hein, puisqu'il y a pas mal de formations qui s'y sont cassées les dents, hein, sur cet exercice. Exercice de la reprise, surtout sur tout un album, alors sur 32 titres, je vous raconte pas. Et là, pour le coup, bah, Bonfire s'est réapproprié les morceaux jusqu'à les personnaliser, mais sans en toucher l'essence. Et non seulement ils sont assez vite reconnaissables, mais en plus, bah, le groupe les a pour certains vraiment réactualisés. Alors, outre Toto, Bonfire reprend sur ce disque Survivor, Deep Purple, Rainbow, UFO ou encore Queensryche. Je vous ai pas tout donné, il y a aussi Gravedigger, enfin bon, il y en a plein. Et puis, cerise sur le gâteau, bah, pour promouvoir Legends, Bonfire va s'offrir une tournée d'une vingtaine de dates avec quelques chanteurs des formations dont ils reprennent les titres. Donc, bah, les chanceux qui vont assister à un de ces concerts pourront tour à tour y voir Bobby Kimball de Toto, Jolene Turner de Rainbow, Dave Bickler de Survivor, Phil Mock de UFO, Geoff Ted de Queensryche. Donc voilà, si ça c'est pas la classe, hein. Que dire de plus ? Eh bien rien du tout, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, place à la musique. Si, je vais juste prendre le temps de vous souhaiter un bon week-end sur Back FM, bon courage pour les blocages de demain pour ceux qui auront à se déplacer. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en métal, salut à tous. Voici donc le morceau Africa de Toto, revu et corrigé par Bonfire.